C'est reparti pour un tour.
Arthur, on est bon?
Captain Vantus speaking, we are okay.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30.
Beaucoup de local et un peu d'autres choses.
Sonotone.
Ok.
Lunettes.
Ok. Question édito.
Ok.
Et parfois les redis.
Génial.
Décollage immédiat pour les matinales de Bartas.
Sur le 107 FM.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le mercredi 5 juillet, il est 8h30 et au programme de cette matinale, nous serons par téléphone dans un instant avec François Quinsac de l'association Blues & Co. Les 14 et 15 juillet prochains à Vialas, le festival de blues revient et on en parle avec lui dans quelques instants, là tout de suite. En deuxième partie d'émission, c'est le festival Chant Libre en Orlozère ce week-end et nous retrouverons Thomas Pouget par téléphone. Et enfin, en dernière partie d'émission, retour sur le festival BD de Saint-Émilion avec le reportage de Léo. Il y aura de la musique comme d'hab, on est en direct sur Radio Bartas, tout va bien, c'est parti, on y va pour l'édito.
On peut être en désaccord, mais enfin, vu le ramassis de saloperie que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Me ferais-je des amis ou des ennemis après cet édito? J'avoue que je n'en ai cure. Depuis quelques jours et pour faire suite au drame qui a tué Naël par ce policier, je vois fleurir cette phrase. À ceux qui disent que la police tire sur tout ce qui bouge, je propose une solution assez simple. Arrêtez de bouger, c'est aussi simple que ça. Alors, je ne vais d'abord pas cautionner les violences, quelles qu'elles soient, celles de la police et celles des jeunes. Il était sûr quelque part que ça allait se passer comme ça. Depuis des années, le climat en banlieue s'est détérioré. On était sur une poudrière et l'étincelle n'a fait que tout allumer. Néanmoins, attardons-nous sur cette phrase. Déjà, c'est sûr, Naël a fait une connerie. 17 ans, pas de permis, mais méritait-il la mort? Les politiques, dont le président Macron, ont dit dès le départ que la réaction du policier qui a tiré était injustifiée, impardonnable. Ce même policier qui s'est excusé assez rapidement. De plus, une enquête est en cours. Le troisième occupant de la voiture, dont le témoignage a été entendu par l'IGPN, la police des polices, indique que l'un des deux policiers a d'abord asséné des coups de crosse à Naël, qui a voulu s'extirper de cette situation, avant d'entendre ce même policier dire « shoot-le » à son collègue qui s'est exécuté. L'enquête est en cours et elle déterminera les responsabilités chacun. Il est parfois des situations, avant de les commenter sur les réseaux sociaux, attendre, c'est parfois ce qu'il y a de mieux. Un peu de dignité, bon sang. La connerie d'un gamin qui n'a et qui n'a jamais voulu tuer qui que ce soit, un gamin sans histoire, aucun casier judiciaire, cette connerie, bien que condamnable, ne valait certainement pas la mort. Tout comme les violences illégitimes des policiers, elles sont condamnables et dans les deux cas, ça ne mérite en aucun cas de se faire justice soi-même. Et je rappelle quand même que la peine de mort est abolie dans ce pays depuis 1981. Une décision de justice peut être contestée, il y a des recours pour ça. Mais c'est justement parce qu'en France, il y a une justice qui essaye tant bien que mal de faire son travail que la justice existe. Affaire à suivre.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clown? De mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je? De mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains, le front tout d'acier. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le Mont Palatin, et plus que l'air marin la douce Angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? J'ai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je?
Eh ben voilà, normalement ça va le faire. Bonjour François.
Bonjour Ben.
Et voilà, on y est. François, comment tu vas?
Eh ben très bien, très bien.
Eh ben ça y est, c'est parti. Le festival de blues reprend ses droits et c'est à Vialas les 14 et 15 juillet prochains. C'est la 6e édition déjà, c'est bien ça?
7e même.
7e édition, eh ben dis donc.
7e édition.
Comme le temps passe. Alors comment ça s'est passé l'année dernière?
Eh ben écoute, très bien. Le temps était formidable. Pour une fois, il faisait très très beau. on a bien pu profiter des groupes en plein air. C'était des groupes formidables, on s'est régalé.
Et encore une belle affiche cette année, on va en parler. Oui. Elle est née d'où cette idée de faire un festival de blues en Lozère, en sachant qu'il y avait un créneau, hein, puisqu'à ma connaissance, c'est assez rare dans la région?
Oui, tout à fait. Nous, enfin, l'objectif, c'était un objectif assez local, si tu veux, c'était qu'avec un ami, on avait observé qu'il y avait beaucoup de choses en août.
Oui.
C'est-à-dire que des fois dans le village, le soir, tu t'hésitais entre plusieurs options, alors que en juillet, bah, il n'y avait strictement rien, à part le bal du 14 juillet. Quoi. Donc on s'est dit faudrait étendre un peu l'offre d'activité quoi, pour les gens, pour qu'ils aient un petit peu des choses à faire en dehors du mois d'août. Quoi. Et donc on a créé ce festival en se disant, bon, on va prendre autour du 14 juillet, parce qu'évidemment, il faut que les gens soient quand même en vacances, qu'il y ait un petit peu de monde, voilà. Donc voilà, l'idée c'est ça d'abord. Ensuite le blues, bah, parce qu'on aimait ça tous les deux, et puis qu'on a rajouté un petit Enco, Blues Enco, le nom de l'association, pour pouvoir passer autre chose en fait.
Ouais. Alors on va évidemment parler de la programmation dans un instant, mais d'abord, attention, la question peut paraître compliquée, mais pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le blues d'ailleurs c'est extrêmement vaste, hein, il y a plein de styles, à ton avis François, quelle est la meilleure porte d'entrée pour commencer à apprécier ce style musical?
C'est de venir au 7e festival de Blues Enco à Vialas. C'est difficile parce que comme tu l'as dit, il y a beaucoup de styles différents. Et c'est une musique qui a fait naître d'autres musiques. On peut penser au jazz, hein, qui en dérive directement et qui a infiltré énormément de musique actuelle. Alors c'est pas toujours évident, mais ça se ressent souvent dans des petits riffs de guitare ou dans des pulsions rythmiques, voilà, des choses comme ça. Mais sinon, si on veut écouter. Alors il y a ce qu'on a appelé le blues anglais, qui est un blues qui accroche bien quand on est jeune et qu'on aime aussi le rock. Ça permet de rentrer dans le blues de façon plus facile. Sinon, il y a les vieux bluesman américains du Delta ou du sud des États-Unis plus généralement, qui sont peut-être plus difficiles à écouter parce que les enregistrements sont anciens, donc ils sont pas très très attrayants bien sûr, mais c'est le blues profond qui est le plus original, quoi, le plus authentique.
L'essence même, ouais, repartir aux racines. Ouais. Alors, pour organiser ce genre de festival, ça peut demander des partenaires, je suppose. Est-ce que vous en avez? Si oui, qui sont-ils?
Alors, nous, nous sommes aidés par la commune, essentiellement, de Vielas, avec son maire, Michel Redon, et puis la communauté de communes, communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère, ça s'appelle comme ça, et puis aussi le département, bien sûr, la Lozère, et le canton du Saint-Étienne-de-Valdonnel, qui nous permettent de vivre, hein, c'est eux qui nous donnent des subventions, et avec... au-delà de ces subventions, nous on essaye de trouver des partenaires, mais alors ici, bon, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de, pas tellement de, on ne peut pas non plus demander toujours aux commerçants de nous aider, donc on essaie de fournir, enfin de proposer au public une restauration et puis une buvette pour essayer d'avoir un petit peu d'argent de côté pour être un peu autonome et puis de ne pas dépendre absolument que de ces subventions.
Voilà. Ouais, parce que précisons quand même, et c'est génial, que les concerts sont gratos. Hein.
Exactement, ça c'est une volonté depuis le début, parce que, je sais pas moi, depuis que je suis en Lozère, la plupart des événements que j'ai vus étaient gratuits. Et dans la région, enfin en tout cas, c'est dans cette partie de la Lozère, c'est assez fréquent.
Et ça se passe à la maison du temps libre. Allons-y pour la prod.
Eh bien non, ça ne se passe pas à la maison du temps libre.
Ah, mais alors dis donc, j'ai tout bon ce matin.
Voilà, il y a des nouveautés. C'est parce que, tout simplement, elle est en travaux, en réfection, pour quelques mois. Donc on n'a pas la possibilité d'en profiter. Résultat, nous allons nous déplacer au centre du village. Il y a une place au centre du village, pour ceux qui connaissent Vielas, hein. Elle est juste devant le collège, et ce sera donc tout en plein air. Alors, ce que je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il fasse très beau.
Mais ça va le faire, il n'y a pas de souci. Oui, allons-y, parlons de la prog, de qualité encore cette année, et ça commence le vendredi avec... Alors, est-ce que je fais de la pub ou pas? Parce que ça s'appelle KFC Bébé.
Ouais, c'est des trois gros poulets, ouais, non. c'est trois musiciens qui viennent de la région de Nîmes. Alors, c'est ce qu'on appelle un power trio. Alors, pour ceux qui écoutent un peu de musique, genre Cream ou genre Hendrix, voilà, c'est-à-dire un guitariste, un bassiste et un batteur. Mm. C'est des gens expérimentés qui ont joué dans beaucoup de groupes, et leur musique, c'est surtout des un répertoire de standard, mais de blues, mais aussi de rock. C'est-à-dire que là, le rock sera un peu à l'honneur avec des reprises de Jimi Hendrix, de Eddie Cochran, Jeff Beck, mais aussi du blues pur avec Muddy Waters, Willie Dixon, voilà.
Si j'ai bien lu, je pense qu'on part en Colombie après avec Carlos Elliot Jr.
Ah ben, tout à fait. Carlos Elliot Jr., oui, c'est un guitariste colombien qui fait une tournée en France actuellement. Et on a eu la chance de pouvoir le capter entre deux concerts dans le sud.
La classe.
Et c'est quelqu'un de... C'est assez formidable, enfin, faut vraiment aller voir ces vidéos sur YouTube, elles sont bien faites, la musique est superbe, et c'est quelqu'un qui est très proche du blues original, justement, s'il y en a qui veulent essayer ça, parce qu'il a joué avec de nombreux musiciens du sud des États-Unis, hein, du Mississippi. Alors, je ne sais pas si ça dirait quelque chose, mais des noms comme Robert Belfour ou la famille Kimbrough, bon, enfin, c'est des noms un peu... c'est la niche, là, hein. Mais disons qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui est très proche de ça et qui rajoute à cette musique très roots, ben, ses chants amérindiens, puisqu'il est son origine colombienne, avec des rythmes d'Amérique latine et puis du rock aussi. Et c'est une musique assez festive. En plus, les paroles sont... C'est que des compositions cette fois, hein, c'est plus des reprises. Ces paroles sont très intéressantes, puisqu'il parle de ses préoccupations écologiques, son combat pour le droit des minorités et pour la défense de la démocratie en Colombie.
Très d'actualité, donc.
Oui.
Et on continue le samedi, ça commencera avec, alors on dit la Bédoune.
Alors, la Bédoune, alors j'ai appris que ça voulait dire la vache. je ne sais pas en quel... pas toi, mais c'est... C'est un duo toulousain formé par un couple, Cécile et Greg, qui vivent ensemble depuis très longtemps, et qui, alors, ont beaucoup de métiers. Ils ont disputé plusieurs fois l'International Blues Challenge, ça dit quelque chose, ça? Voilà. Et ils ont été demi-finalistes en 2019 et finalistes en 2022, ce qui est quand même une remarquable performance quand on sait que les groupes viennent du monde entier. Hein. Et ça se passe à Memphis, bien sûr. Et voilà. Et ils ont ce qui a plu, je pense, c'est qu'ils ont une touche originale un peu, ce qu'ils appellent Frenchy Blues. C'est-à-dire que c'est Cécile qui raconte ses histoires, c'est elle qui écrit les morceaux, elle, les paroles, et mm-hmm. qui raconte des histoires de sa vie, des petits morceaux de son enfance, etc. Et c'est très original, mais ça reste très, très blues, très roots. Voilà.
Et ça se termine avec un guitariste sur The Waves, ce sera c'est Mr. Chang Blues Explosion.
Oui. Alors, Mr. Chang Blues Explosion, alors là, c'est un quartet avec un saxophoniste, basse-batterie, bien sûr, et puis le guitariste, qui est un excellent, vraiment excellent guitariste, qui chante, et qui... alors, leur musique, c'est... Alors là, je vais encore dire des trucs. ça se rapproche du West Side Blues. Alors, West Side Blues, c'est un blues qui est né à Chicago, et qui est né dans les quartiers pauvres de Chicago, et qui était très, très agressif, très citadin, très, très puissant. Et bon, ils en ont tiré beaucoup de cette énergie pour exprimer un blues qui est assez fougueux, voilà. Et c'est des gens qui ont joué partout, alors en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Et ils ont vraiment une puissance électrique assez importante, alors qu'ils ne sont que quatre.
Ouais. Et on va les écouter.
Je pense que ce sera une bonne... Bonne fin de festival.
On va les écouter dans un instant. Dis donc, ça fait une belle proc, ça. Comment vous travaillez sur la programmation? Ça se passe tout au long de l'année ou
Oui. Alors, c'est essentiellement moi qui reçois des propositions, qui écoute un peu à droite, à gauche, et puis je contacte quand je peux les personnes. Et puis ça se décide, grosso modo, en février, mars, par là. Et puis voilà... C'est pas toujours facile parce qu'on est limité par les contraintes budgétaires, bien sûr. Mmh. On peut pas non plus inviter des groupes extrêmement prestigieux. Mais bon, on se débrouille et puis ceux qu'on fait venir, ben, jusqu'à présent, ça a toujours été d'un très très bon niveau.
Ouais, pour avoir écouté un petit peu la prog, c'est génial. Et ça, tout ça, c'est gratuit, on l'a dit. Est-ce qu'il y aura encore restauration sur réservation?
Alors, pas de réservation cette année, parce que, comme j'ai expliqué plus tôt, là, on n'a pas la maison du temps libre, donc on n'aura pas de cuisine. Donc, ce qu'on aura, ce sera des salades, ce sera un repas froid. Hein. Mmh. C'est une petite restauration cette année, parce que on peut pas cuisiner. Donc, mais enfin, il y aura toujours la possibilité de manger des bons gâteaux, des salades, et puis une buvette. Et tout ça est préparé par... une bénévole qui fait tout pour 300 personnes quasiment. Mm. Donc j'admire beaucoup son travail. Voilà. Mm.
Blues & Co, c'est sur la place de Vialas cette année, c'est gratos. Merci beaucoup François.
Je te remercie.
Et ça se passe le week-end du 14 et 15 juillet. Je mets toutes les infos sur notre site dans un instant. Et à l'année prochaine François.
Merci. Salut Ben.
Avec plaisir. Et justement, on va écouter Mr. Chang Blues Explosion. Le morceau s'appelle Mississippi Party. Clôturons le festival. Ce sera le samedi 15 juillet pour le coup. Hein. C'est parti.
We'll be right back. Rockdale. Come on home. Come and party, baby, all night long. R.L. Burnside and Junior Kimbrough. Robert Belford, Junior Hero.
Nous sommes par téléphone avec Thomas Pouget, bonjour.
Bonjour.
Tu es le directeur artistique de la compagnie La Joie Errante et vous organisez du 7 au 9 juillet le festival Chant Libre. Toute une série d'événements dans le nord Lozère entre Le Malzieu et Saint-Chidiapché. C'est la quatrième édition, la première ayant eu lieu en 2020. Sacrée année pour créer un festival, dis donc. Et pourtant, ça a marché.
Ouais, mais ça a marché parce que je pense que d'une part, tout le secteur culturel était à l'arrêt. Parce que y a la pandémie qu'on connaît qui est passée par là, ouais. Et ça a marché parce que je pense qu'il y avait un besoin certain pour le public de se retrouver, et que derrière ce qu'on a pu appeler les non-essentiels, etc., il y avait quand même une nécessité au moins pour le public de se retrouver et de vibrer au son des spectacles de musique, de théâtre et de danse. Donc je pense que ça a su fédérer un territoire, en tout cas. Ouais.
Commençons par le début, c'est quoi le concept, la ligne artistique du Festival Chant Libre?
En fait, le concept, il est né d'un constat qui est que parfois il y a une appréhension du public, et j'en croise encore tous les jours, qui pense que le théâtre c'est vieux, que le théâtre c'est pas fait pour eux, que les concerts ne se sont pas faits pour eux, etc. Et en fait, ce constat, il est assez terrifiant, parce que je me dis, en fait, on a tous et toutes les codes pour s'emparer de ces choses-là, et on peut, à mon avis, vibrer, comme je disais, au centre des spectacles avec une vraie belle exigence, mais avec une vraie accessibilité aussi pour le public. Donc de fait, on a créé le festival en plein air, et de manière à casser ces barrières qu'il peut y avoir de temps en temps en disant « j'ai peur de rentrer dans un théâtre, j'ai pas les codes, etc. » On fait tout en plein air et pour toutes les familles.
On sent aussi que l'idée du festival, c'est de s'engager dans pas mal de combats, hein, tant en ce qui concerne l'environnement, mais aussi la parité et jusque la violence au travail, que j'ai pu lire. Comment ça se traduit concrètement sur le festival?
Concrètement, déjà toute l'équipe est sensibilisée sur ces questions-là. On en parle beaucoup avec l'équipe de La Joie Errante et aux bénévoles aussi, de manière, c'est une évidence que j'énonce, mais on condamne évidemment fermement tous ces comportements-là. Mais on commence à mettre en place des outils aussi pour faire remonter, si jamais on assiste à ce genre d'événement, de manière à ce que ça ne passe plus. Et on est en 2023 quand même, donc il est temps que ça remonte et puis que ça fasse effet, quoi.
C'est sûr. La culture se doit-elle d'être engagée?
Oui. Enfin, je dirais que la culture est engagée. Après, nous, c'est toujours délicat de répondre à ces questions-là parce que je ne sais pas ce qu'on met derrière le mot d'engagement. Moi, je suis engagé pour mon territoire. Je suis fervent défenseur, en tout cas, d'une culture qui se veut émouvoir et faire réfléchir aussi les gens, mais j'essaye de ne pas opposer les deux, et j'essaye aussi de dire au public, et puis je crois que ça marche pas trop mal parce que nos créations continuent de tourner pas mal sur le territoire et au niveau national, on essaye de se dire que des questions de société, et ce qu'on appelle notamment le théâtre contemporain, ça parle aux gens, parce que ça parle d'eux en fait, ça parle d'humains. Donc oui, la culture, elle se doit d'être engagée, et puis je crois qu'on essaye de le faire du mieux possible. Ouais.
Alors, vous mettez aussi un point d'honneur à faire connaître les compagnies installées en milieu rural. Est-ce que c'est plus dur ou c'est simplement différent de se produire quand on vient de milieux comme le nôtre ?
Je pense qu'il y a une attention qui n'est pas tout à fait la même par rapport au public, en fait, à vrai dire. Je pense que, comme je le disais, dans nos territoires, il y a évidemment plein de choses qui se passent et c'est heureux. Mais je pense qu'on est dans un, comme tu le disais, dans un engagement qui est celui de se dire qu'il faut militer pour faire venir le public au spectacle. Donc je pense que les compagnies qui sont implantées en ruralité, en campagne, on est au courant de cette chose-là. C'est pas toujours une évidence de faire venir le public. Je pense que pour certains, et encore il y a des exceptions bien sûr, mais pour certaines villes, je pense le plus évident c'est Paris, je pense qu'il y a déjà un public qui est acquis en fait pour aller au théâtre, qui n'a pas peur de mettre des fois 20 ou 30 ou 40 euros dans une place de théâtre. Nous, on n'a pas ces rapports-là avec le public. Je pense qu'il y a un rapport très fort déjà de fidélité. Il y a une attention particulière sur les tarifs à avoir, parce qu'on sait que c'est un frein, c'est certain. Mais c'est un public qu'il faut aller chercher, ça c'est certain. Oui.
C'est ça, c'est pour ça. Allons-y, c'était ma dernière question, mais allons-y pour maintenant. Vous voulez vous pratiquer des tarifs très abordables, c'est entre 6 et 12 euros, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et oui, parce que c'était la volonté aussi de se dire que... Et puis alors, en ce moment, je pense qu'on est en plein dedans. Je n'apprends rien, mais il y a une crise financière. Il y a évidemment des aléas qui font que c'est pas toujours facile de boucler les fins de mois. Donc, on a une attention particulière. La culture, parce que je considère que ça doit être un service public. C'est pas de moi, c'est de Villard et de Vitesse avant lui, qui disait que ça devait être considéré, la culture, au même titre que le gaz, l'eau, l'électricité, comme un service public. Moi, je considère que chacun doit s'en emparer, que chacun a une culture, et que c'est beau, en fait, de se rassembler, et puis de rire ensemble, de s'émouvoir ensemble, d'être en colère ensemble. Et il y a de quoi, donc... Continuons à le faire, ouais, à des tarifs accessibles.
Alors, 3 jours le festival, c'est du 7 au 9 juillet, 3 lieux, voire 4 lieux, 4 spectacles par soir, et ça commence au Malzieux le 7, et c'est vous, la compagnie La Joie Errante, qui ouvrait le bal avec ce monstre de la littérature française qui n'est autre que Le Petit Prince. À quoi le public doit s'attendre ?
Il doit s'attendre à se laisser embarquer par les mots de Saint-Exupéry. Et moi, j'aime beaucoup à dire que la lecture, c'est absolument pas le parent pauvre du théâtre.
C'est vrai.
Ça demande un exercice différent, évidemment, de celui de jouer avec un texte appris par cœur. Mais ça demande d'être en phase complète avec les mots de Saint-Exupéry. C'est rigolo parce que c'est un livre... Moi, je me souviens, on l'étudiait beaucoup à l'école. On continue à l'étudier, mais moins quand même globalement. Et je trouve que c'est un livre formidable qui nous apprend énormément de choses sur la vie, sur la perception qu'on peut en avoir et sur justement prendre des fois du recul sur beaucoup de choses. Donc on voulait ouvrir le bal, puisque La Joie Errante, systématiquement, sur les 4 éditions, a proposé un événement. Là, on est en mineur, puisque c'est une lecture et que ce n'est pas un gros spectacle comme on peut le préparer pour 2024. Mais on y tient, on continue, je pense depuis maintenant 5 ans qu'on est installé sur Nord-Lozère, à fédérer le public, donc on est aussi un peu attendu au tournant de temps en temps en disant bon, alors qu'est-ce que vous faites cette année? Et là pour le coup ce sera la lecture, et puis comme tu le disais, l'idée c'est de commencer avec ça, et puis de finir avec des concerts à la Tour d'Apché, avec, moi je suis évidemment pas très objectif, mais très fier de cette programmation-là. Il y a tous les artistes que je recommande, ce sont des gens qui sont sensibles, qui sont intéressants, qui ont une attention particulière à ce qu'on fait en milieu rural, qui parfois eux-mêmes ont questionné la chose en s'équipant d'un camion comme on a pu le faire avec un piano dedans pour désacraliser ce que peut être la musique classique. Enfin voilà, il y a largement de quoi faire, je pense.
C'est sûr, ce qu'il faut bien comprendre, c'est, tu l'as abordé tout à l'heure et tu viens de l'aborder d'ailleurs, c'est que ce festival, c'est pas que du théâtre, il y a du cirque, c'est très éclectique. Mélanger les arts, c'est une des caractéristiques du festival.
Ouais, complètement. Parce que je ne veux pas hiérarchiser les arts, ce serait à mon avis une bêtise. Et puis je pense qu'on peut être touché par du théâtre, moins l'être par du clown, et en même temps, il y a tellement de choses différentes dans les concerts, par exemple, qu'on propose entre l'ombre qui fait du rap chanson française, et en même temps Laura Zucca qui fait concert du monde, et en même temps de la musique classique. Enfin, il y en a aussi pour tout le monde. L'idée, c'est que le public puisse se découvrir lui et découvrir Bézard à travers des propositions artistiques. Mais je suis pas sûr que je souhaite que le public sorte en disant tout était génial. Enfin, le spectacle vivant est aussi là pour dire, pour questionner, pour dire ça m'a touché, ça moins, etc. Mais heureusement que les spectacles seront pas là pour faire sans cesse l'unanimité. Il y a de tout en tout cas.
Et elle doit commencer tôt, la culture, puisque cette année, le lycée Saint-Joseph va être à l'honneur avec une pièce de théâtre qui s'appelle Incendie, c'est ça ?
Oui, c'est toujours cette idée de cohérence qui, moi, me tient à cœur et puis de sens. La compagnie, elle intervient au lycée Saint-Joseph sur l'ensemble de l'année scolaire. Et puis là, c'est vrai qu'il y a cette envie-là de monter Incendie qui est venue depuis un petit moment. Ce qui est drôle, pas tellement, mais cocasse, c'est que ça parle notamment de la guerre, etc. Que l'envie de monter cette pièce, elle est née bien avant la guerre d'Ukraine, mais que ça a pris une autre tournure quand on l'a montée cette année, de se dire, voilà, c'est à 2 heures d'avion, en fait, et il se passe les mêmes choses que cette pièce peut raconter au Liban. Donc, je pense qu'il faut savoir entendre, écouter. Et puis c'est toujours très agréable de voir des élèves qui se dépassent et puis qui vont jouer au milieu d'une programmation professionnelle. Enfin, c'est aussi continuer un partenariat qu'on a mis en place depuis un petit moment avec eux.
C'est génial, effectivement. Alors, tu parlais de désacraliser la scène, entre guillemets, pour le public, mais cette année aussi, pour la première fois, à Champ Libre, vous proposez une scène ouverte.
Ouais. Oui, c'est ce que j'aime à répéter souvent, mais le festival, il est en partie monté sur des subventions publiques. Donc pour moi, il y a une attention particulière au public. Et quoi de mieux que de leur offrir un passage de 5 à 7 minutes en disant que, je sais pas, hein, ça peut être un enfant qui écrit dans sa chambre et qui n'ose pas le lire en public, et bien lui donner la possibilité de le faire. Ça peut être un groupe de musique naissant qui a envie de se produire. Ça peut être quelqu'un qui danse et puis qui tout d'un coup a envie aussi de se produire. Enfin voilà, moi c'était surtout l'idée de laisser la porte ouverte au public et de s'emparer aussi de ce festival-là en disant que oui, il y a des professionnels qui y jouent, oui, il y a des lycéens avec Incendie, comme tu le disais, mais tout le monde peut s'emparer de ce festival-là et je reste persuadé, c'est aussi notre façon de créer, qu'on a tous quelque chose à raconter et qu'on a tous une histoire. Donc si, je sais pas, il y a des choses qui sont plus timides, etc., c'est l'occasion pour le coup de le montrer et d'essayer. Et puis après, c'est pas un concept très nouveau, très novateur, dans la mesure où par exemple il y a plein de stand-uppers qui le font et c'est une manière d'essayer, d'échouer parfois parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas finies, mais en tout cas ça donne la possibilité d'essayer et de tester face à un public. Et on n'est pas là pour produire une œuvre finie, aboutie. C'est l'idée vraiment aussi d'essayer, de se produire, de tenter, et puis voilà, de se lancer, d'expérimenter.
Et d'essayer de dépasser le stress aussi, parce que c'est pas toujours évident. Au niveau, il y a beaucoup de chansons françaises, sauf Laura Zucca, qui sera musique du monde dès le dimanche. La chanson française, ça fait du bien. Je pense à Céleste et Kid Maceo, ou à L'Ombre, ou Nati encore, qui se produiront.
Moi, ça fait du bien. Puis encore une fois, on a réfléchi sur la programmation en termes de cohérence. On est content et puis fier, tu vois, de pouvoir programmer L'Ombre et Nati, parce que pour moi, c'est aussi ça la soirée. De pouvoir allier, tu vois, quelqu'un comme L'Ombre qui fait des zéniths, que ce soit avec en première partie de Ben Mazuvé ou de Big Flo et Oli, et de se dire, en première partie, il y a quand même Nati qui est Barabande, qui est de Saint-Chély-d'Apcher. Tu vois, je trouve que ce partenariat, il est assez incroyable. Kid Maceo et Céleste, ce sont deux artistes que j'ai rencontrés quand moi je jouais en Haute-Loire, qui ont une sacrée plume, et en plus de ça, Mehdi Kid Maceo qui a un talent fou au piano, quoi. Ouais. Et avec 4 notes, il arrive à faire des choses incroyables. 4 accords, c'est pareil. Enfin, Ouais, ça me tient à cœur d'avoir cette accessibilité aussi au public, de, ben, comme on le disait, de démystifier en disant enfin, on va passer un bon moment et ça va être simple et ça va être très agréable.
Tous les concerts auront lieu à la Tour d'Apcher, c'est bien ça, hein?
Ouais, c'est ça.
Donc ça, ce sera tous les soirs. Et bien sûr...
Je dis une petite bêtise, il y a quand même le concert qui a lieu au Quartz, c'est le samedi soir.
Ouais, tout à fait, je l'avais noté en plus. Il y aura aussi, donc on l'a dit, hein, trois lieux, il y aura aussi une belle journée à Saint-Alban-sur-Limagnole le dimanche, et ça commencera avec les Noctambules qui est de la danse.
Oui, c'est ça. En fait, les Noctambules, il y a une partie de cette équipe-là qui est en résidence avec le ciné-théâtre depuis un petit moment. Et puis, ben voilà, pareil, ça s'est fait avec des rencontres, avec une envie de travailler ensemble sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment. Et il se trouve que certains membres avaient notamment un projet autour de ce qu'on appelle la résilience, tomber, chuter, et puis se relever, et toujours plus haut, et puis rechuter, et puis se relever, etc. Donc, naturellement, on a dit oui, bien sûr, il y a aussi une proximité avec le territoire, parce que vous connaissez très bien les habitants, parce qu'il y a des gens qui sont venus vous voir, donc continuons ce partenariat. Mmh. Ça participe aussi à ma façon de considérer ce qu'on appelle la décentralisation culturelle, c'est-à-dire que pour que les artistes s'implantent sur un territoire, il faut que ça soit fait de manière durable. Mais il ne faut pas simplement venir une fois, pour moi, et puis repartir. Ou alors ça s'appelle une tournée, mais ça ne s'appelle pas tout à fait une implantation territoriale avec une décentralisation accrue.
Et le dimanche, il y aura aussi la compagnie et la famille vient en temps mangeant. Ça, c'est du théâtre.
Ouais, c'est un très beau spectacle qui parle notamment de l'éducation et du rapport dans une famille à l'autorité et je crois surtout à l'éducation, de savoir qui éduque qui dans une famille. Est-ce que ce sont les enfants qui apprennent aux parents ou les parents qui apprennent aux enfants? Mais c'est un seul en scène qui est fait par une actrice et ouais, qui est vraiment très très forte.
Et le Cirque Pépin, c'est peut-être...
Oui, ben, c'est rigolo parce que on fait des échanges de temps en temps avec d'autres festivals et puis on le sait, c'est une compagnie qui axe leur travail à la fois sur la poésie, à la fois sur le cirque et à la fois sur le théâtre. Donc c'est accessible vraiment aux plus jeunes parce que je crois que c'est de mémoire accessible à partir de 3 ans. Et puis voilà, ça participe aussi à ce qu'on disait sur la programmation, mais d'essayer de combiner des spectacles qui soient plus jeunes publics, d'autres qui soient plus, je dirais pas vieux public, mais en tout cas qui soient pour un public tout public, voilà, ou un public plus confirmé. Mais l'idée c'est qu'il y en ait pour tout le monde, donc... Ouais, le Cirque Pépin rentre aussi dans cette boucle-là de se dire poésie, théâtre, acrobatie, et il y en a pour tout le monde.
Alors, tu l'as dit, hein, le festival est financé par de l'argent public, justement. Ouais. Est-ce que, alors, vous êtes peut-être privilégié, je ne sais pas, mais en tout cas, quelle est la place de la culture et ce genre d'événement aujourd'hui en Lozère, à ton avis?
Je pense que, enfin, privilégié, je sais pas ce que ça veut. Enfin, moi, je fais un métier que j'aime et j'en vis. J'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi me déplacer. Donc, je suis privilégié si, au regard du monde, etc. Tout va bien dans ma vie et tout va bien pour la compagnie. Ceci dit, une fois que cette chose-là est dite, on est quand même inquiet pour la suite parce qu'on voit ce dont je parlais, la crise financière arriver. Il y a déjà des coupes budgétaires qui sont opérées auprès de diverses institutions et c'est pas un secret, hein. Donc on est inquiet. En Lozère, je pense que dans la mesure où on a une implantation territoriale qui est assez forte, assez présente, pour l'instant ça se passe pas trop mal, même si de manière pratique on le voit sur d'autres territoires, il y a des structures qui nous appellent dans un premier temps en disant on veut prendre 4 dates, puis qui nous rappellent en disant en fait on n'a pas les budgets, on en prendra 2, et qui nous rappellent en disant en fait on n'a pas les budgets et on nous a supprimé encore, donc on en fera une. Cette chose-là, on la vit, et pour discuter avec plein d'autres compagnies, c'est partout pareil. Je pense que on y échappera peu ou pas. Je pense que nous, on est plutôt encore à l'abri, on tourne bien, on est quand même à Paris l'année prochaine, tout le mois de novembre, il y a quand même des choses qui se passent, mais ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est un boulot, je crois, colossal déjà d'organisation d'un festival, c'est un boulot colossal de se dire qu'il faut continuer à assurer les tournées, qu'il faut préparer les prochaines créations. Donc on tape souvent, à mon avis, à tort sur ce qu'on appelle les intermittents du spectacle qui doivent faire 507 heures par an. C'est 507 heures déclarées, mais c'est évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'heures de préparation, de travail, de doute, de remise en question, d'échecs, d'avancées, etc. Donc je pense que la culture, pour répondre précisément à ta question, en Lozère, elle se porte pas trop mal, et encore qu'il y a, des personnes qui te diront tout l'inverse.
C'est sûr.
Mais il faut continuer à travailler, je crois, et à rester optimiste en disant que les choses sont possibles sans se voiler la face, et je crois en essayant d'anticiper ce qui peut potentiellement arriver d'ici quelques mois ou d'ici quelques années. Ouais.
C'est ça, rester vigilant et inciter le public encore et encore à aller voir des spectacles, et des festivals.
Ben, on le fait pour... Enfin, je veux dire... Je lisais un article ce matin, c'est rigolo, on parle souvent des artistes, mais en fait, ceux qui font le spectacle vivant, tous les arts confondus, il y a des artistes, il y a des techniciens, il y a des régisseurs, il y a des chargés de diffusion et production, il y a des éclairagistes, et il y a le public. Mais je veux dire, si on ne fait pas ça pour le public, je ne sais pas pour qui on le fait, et on ne le fait pas pour notre petit ego. Enfin, je n'y crois pas, ou en tout cas, c'est pas notre façon de faire du tout, c'est impossible. Donc bien sûr qu'il faut que le public... soit là, et puis on compte sur lui. Ouais.
Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos pratiques et réservées, pourquoi pas sur le festival Chant Libre?
Alors, il y a tout sur le site internet de la compagnie, sur lajoieerrante.com, et après, s'il y a la moindre question, mais normalement, quand même, on a pas mal balisé la chose, il y a un mail, c'est chantlibre48@gmail.com. Alors là, vous nous écrivez, on vous répond au moins dans la journée si c'est dans 48 heures.
Je mets évidemment tous les liens sur notre site dans un instant. Ça se passe du 7 au 9 juillet prochain en Orlozère, le festival Chant Libre organisé par la compagnie La Joie Errante. Merci beaucoup Thomas.
Merci à toi Ben, et à bientôt.
Tu es le directeur artistique de La Joie Errante, je vous souhaite un excellent festival et à très vite. Allez, sans transition, on repart avec Léo au festival Bulle de Burle, rencontre avec des enfants et des adultes au festival et d'une illustratrice. C'est parti avec une petite musique qui va vous rester dans la tête.
Hé, hey, c'est Léo. Ce week-end avait lieu le festival de bande dessinée Bulle de Burle à Saint-Enimy. Après le plateau radio, on m'a lâché tel un fauve dans le festival et j'ai pu bondir sur les passants pour leur arracher quelques mots. Comme je m'y attendais, j'ai croisé beaucoup de Lozériens. D'où est-ce que vous venez?
Alors moi je viens de Chanac, c'est pas très loin d'ici.
Mende.
De Chanac.
Mais il y avait aussi des gens qui venaient un peu plus loin.
De Sévérac.
Non, du tout, de Toulouse.
Et de plus, je n'ai pas réussi à la rencontrer, mais j'ai ouï dire qu'une des personnes présentes avait fait la route depuis la Suisse. Le grand nombre des personnes que j'ai interrogées étaient des enfants, mais c'est pas forcément un choix de ma part, c'est surtout que les adultes ont une tendance à fuir les micros ou de décharger toutes leurs responsabilités sur leurs enfants par peur de répondre à mes questions pièges. Questions pièges du genre, qu'est-ce que tu as acheté comme livre aujourd'hui?
Oui, j'ai trouvé des BD qui me plaisaient. Ayati.
J'ai pris le livre Algérienne parce qu'il me semblait assez intéressant pour son sujet. Et j'ai pris l'artiste à mi-temps parce que les dessins, je les trouvais assez jolis.
J'ai pris Mystère étoile d'araignée,
celle de Marc Lisano.
Un grand-père tombé du ciel et Momo.
Parce qu'il est venu en classe.
Oui, j'en ai pris deux. J'ai pris Mangaka et j'ai pris Incroyable Végétaux. C'est quelqu'un qui fait des BD assez rigolotes que j'ai essayé depuis 4 ans et que je vois souvent, du coup ça j'aime bien.
Mais heureusement, certains sont quand même là pour rattraper la moyenne d'âge.
J'étais fan de BD quand j'avais 30 ans, j'en ai maintenant 70. Je lisais beaucoup de BD à l'époque et puis après j'ai plus lu des livres sans images. Alors là j'ai acheté L'Enfant Caché de plusieurs auteurs. Je ne connais pas du tout les auteurs, d'ailleurs il n'est pas là, mais c'est un bouquin qui a eu un prix l'an dernier dans ce festival. Et je suis moi en train de travailler sur un spectacle qui s'appelle L'Enfant Sauvage. Et ce titre, L'Enfant Caché, ça m'a attiré, puis j'ai regardé à l'intérieur. et j'ai vu que ça parlait de racisme, de fascisme, de chasse aux juifs. Et je viens de monter un spectacle avec mes élèves qui parlent de tout ça, donc ça tombe bien, voilà, et donc j'ai acheté ce bouquin.
Alors je me suis remis à lire de la BD depuis 3 ans, après avoir arrêté une vingtaine d'années, mais oui, et puis on m'avait vanté ce festival, son village, voilà. Alors j'en ai acheté quelques-unes, mais surtout j'en avais amené beaucoup. Houot, Terpan, Jean-Marc Salner, Florence Magnien.
C'est vraiment au feeling, hein. J'ai feuilleté et j'ai pris des choses très différentes.
Ça fonctionne très bien.
Voilà, donc ça, Momo, je l'ai pris parce que c'est un auteur qui est venu dans ma classe, qui a mené une animation avec mes élèves il y a quelques jours. Donc dommage que Marc Lisano n'était pas là, mais donc je vais découvrir son travail. Celui-là, c'est ma fille qui l'a choisi, donc il faudra lui demander pourquoi. Et puis on a profité des BD à 3 euros qui sont vendus un peu plus loin là-bas. Okay. Voilà, et celui-là je le trouve rigolo, donc l'homme qui voulait être vieux.
Mine de rien, quand je demande à ces jeunes personnes quelles sont leurs BD préférées, eh bien leur réponse n'a pas forcément changé depuis les 15 dernières années.
Les Sisters, Tintin, Milou, Astérix et Obélix.
À croire que les parents ont gardé toutes leurs vieilles BD d'enfance pour les donner à leurs enfants. C'est beau le recyclage, hein. Après tout, les grands classiques ne semblent pas vieillir. Mais j'ai eu des enfants avec un vrai avis d'expert sur la question.
J'ai beaucoup de BD, mais après j'ai pas vraiment de titres que j'ai adoré, j'aime tout en fait.
Pas plus qu'un autre ?
Non.
Et ces enfants n'ont pas eu la moindre peur de me remettre à ma place, moi et mes questions pourries.
Et qu'est-ce qui te plaît ici ? Pourquoi tu es venu ?
Parce que j'aime bien les livres.
Il est vrai que moi aussi je me suis fait plaisir et j'ai acheté un livre que j'ai fait dédicacer pour les enfants d'une amie. Ce livre, c'est Mystère et toile d'araignée, de Fleur d'Auger, illustré par Émilie Van Volsem. Et comme j'adore rester dans le thème, eh ben, c'est sûrement le seul livre du festival qui n'était pas une bonne dessinée. Mais j'ai quand même profité du temps de la dédicace pour questionner à son tour l'illustratrice.
Bonjour, je suis Émilie Van Volsem, illustratrice, naturaliste, jeunesse. J'illustre des albums documentaires, donc c'est de la vulgarisation scientifique pour les enfants. Et je travaille avec chaque fois une personne spécialiste du domaine, que ça va être les champignons, les fourmis, les araignées.
Comment on en vient à faire du coup ces albums documentaires ? C'est une commande ou c'est un désir à la base de travailler sur un sujet ?
J'ai commencé par faire de la fiction, des albums d'histoire inventée où j'écrivais les textes et puis je faisais des dessins. J'ai réalisé que je préférais travailler avec un auteur et puis il y a de ça à peu près 6 ou 7 ans, je me suis vraiment lancée dans le dessin naturaliste un peu didactique, figuratif, et comme j'aime beaucoup la nature et les animaux, j'ai commencé à dessiner ce genre de sujet là et voilà.
On dit que souvent les phobies et les peurs, ça vient du fait qu'on n'est pas assez renseigné sur les animaux desquels on a peur, les choses auxquelles on a peur. Est-ce que du coup, créer, c'est par exemple là un livre sur les araignées, ça a un but au fond de couper cette peur assez jeune ?
Ouais, complètement. C'est tout à fait l'idée. C'est vraiment ça. C'est essayer de déjouer les idées reçues qu'on peut avoir sur l'animal. Par exemple, l'araignée, c'est un bon exemple. Les gens pensent parfois qu'ils se font piquer par des araignées, alors que c'est pas possible parce qu'elles n'ont pas de dard, donc les araignées mordent. Et ici en France, en fait, on a des araignées qui sont trop petites pour percer notre peau à nous d'humains. Donc quand on pense qu'on a des piqûres d'araignées, c'est probablement plutôt un autre insecte de puce acarien, etc. Mais l'araignée, c'est un peu une idée fausse qu'elle nous pique ou nous morde.
Ça demande combien de temps de travail, de renseignement, par exemple là pour les araignées, pour pouvoir les dessiner comme ça, et combien de temps tu prends pour t'informer ?
Ouais, c'est assez long. Alors l'auteur souvent m'envoie plein de documentation en même temps que son texte. Puis moi, de mon côté, je fais pas mal de recherches. Après la réalisation, comme je dessine plus assez vite, je mets 2 mois à peu près. Mais le temps en amont, où je fais pas encore le livre, mais je l'infuse dans ma tête et je cherche la documentation, peut être aussi long que ça.
Aujourd'hui, on est à Enimi BD. Comment ça se passe, tout simplement ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont venus faire des dédicaces ?
Oui, il y a eu vraiment beaucoup de monde aujourd'hui, donc on est dimanche. Hier, le samedi, c'était plus calme. Et alors, je dessine pas de bande dessinée, les gens sont à la fois intrigués et parfois un peu surpris de tomber sur de l'album documentaire. Mais c'est chouette, j'ai eu des très beaux échanges et je suis contente d'être ici.
C'est la première fois que tu viens du coup en Lozère. Je t'ai pas demandé d'où tu venais.
Alors, je viens de la Drôme, dans une petite ville qui s'appelle Die. qui est un peu dans le même genre d'environnement très sauvage comme ici, mais plutôt façon Vercors et vignes et clairettes. Et je suis déjà venue en octobre en Lozère pour une autre animation.
Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours actuellement sur des animaux, des végétaux? Parce que là, je vois qu'on a déjà pas bêtes les bêtes, les araignées, les champignons, chenilles et papillons, des fourmis. Est-ce qu'il y en a du coup d'autres en travail?
Oui, alors celui sur lequel je travaille actuellement, ce sera sur l'ému. Donc l'ému, c'est le pelage qui change, ou le plumage, ou les écailles. Ça peut être l'insecte, comme la cigale qui mue. Et ce qui est amusant avec ce genre de sujet, c'est que je passe aussi beaucoup de temps à regarder des vidéos pour bien comprendre le mouvement que fait l'animal. Et donc là, ces derniers jours, j'ai regardé énormément de vidéos d'exuviation d'insectes ou d'araignées. Et c'est des fois très très spectaculaire. En fait, de regarder ça de près, voilà, c'était. Et j'apprends plein de choses en fait à chaque sujet. Et j'ai fait un album aussi qui est pas présent au festival sur les crottes d'animaux. Alors ça peut sembler être un sujet un peu puéril qui fait ricaner, mais en fait on apprend énormément de choses en observant les traces que laissent les animaux, leurs excréments, leurs empreintes. Voilà, c'est un des sujets qui m'a intéressé aussi.
Quoi qui t'a, je sais pas, surpris chez les araignées, qui t'a intéressé spécialement? Plus qu'un autre sujet, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment surprise?
Oui, toute la variété différente. En fait, c'est très très complexe, toutes les familles qu'il y a dedans, et puis simplement leur morphologie hyper différente. C'est vraiment pas uniforme. Et puis voilà, un peu leurs différentes aptitudes. Donc celles qui on dit qu'elles volent, mais elles volent pas. Elles utilisent l'électricité statique pour se déplacer. Les mygales qui peuvent projeter des poils urticants ou qui peuvent être vraiment très balèzes. Et puis celles qui sont microscopiques. Enfin, c'est vraiment hyper varié, hyper riche. Et l'araignée pan, que je suis en train de dessiner pour le moment, elle a des couleurs assez incroyables. Elle a des rouges très, très intenses et des bleus.
Elle a surtout une vraie danse en période de la reproduction. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu en parles dans le livre de la reproduction des araignées.
Oui.
Parce que c'est assez spectaculaire aussi. Alors, c'est vraiment haute par rapport à beaucoup d'animaux.
Ouais, je ne sais pas si j'ai illustré vraiment techniquement des scènes où on voit des accouplements. Mais oui, on en parle dans l'album, tout à fait. Et en plus, les araignées... je les trouve, les gens qui ont peur imaginent souvent une image très classique de la grosse araignée poilue avec des pattes épaisses, et elles, je les trouve vraiment super mignonnes. Elles ont plein de grands yeux tout brillants, et en plus elles sont quand même assez élégantes, je trouve, hein.
Là, c'est les araignées qui peuvent être beaucoup utilisées pour éduquer les gens à ce qu'est une araignée, et à casser un peu la peur de l'araignée. C'est tout petit, c'est mignon, c'est même drôle.
Oui, c'est vrai, tout à fait.
Ça a été quoi tes premiers dessins quand tu étais plus jeune, que tu t'es dit je deviendrai peut-être dessinatrice? Qu'est-ce que tu as dessiné en premier?
Alors, je me souviens que mon père dessinait quand j'étais enfant, comme amateur, et que je lui demandais de me dessiner des animaux, et que je le voyais tracer des traits abstraits, et puis un moment l'animal se formait, et que je trouvais ça magique, et que c'était comme une sorte de pouvoir que je voulais avoir moi aussi. Et je me souviens que j'ai eu une longue phase où j'ai dessiné beaucoup d'oiseaux, et je faisais ça de manière très détaillée, plume par plume, et j'ai eu comme ça des passages. Les mammifères, j'aime bien, et alors j'ai une prédilection, c'est tous les animaux mal aimés, donc j'adore les vautours, les chauves-souris, les blaireaux, voilà. Ça, c'est vraiment... si vous pouvez faire des albums et des BD rien que là-dessus, je le ferais.
De base, tu t'es concentré directement sur des animaux réels, je veux dire, ou par exemple, quand tu dessinais des oiseaux, tu t'informais sur l'oiseau, comment à quoi il ressemblait, ou alors c'était juste un oiseau pour faire un oiseau, n'importe lequel, un peu au hasard?
Ouais, non, c'est intéressant parce que je m'inspire toujours de photos. Même aujourd'hui encore, j'ai besoin de voir des photos dans différentes attitudes possible. Si c'est un oiseau, je veux le voir en vol, je veux le voir posé de face, de profil, etc. Et une fois que j'ai vu pas mal de photos, c'est comme s'il y avait une image mentale qui se formait, et après j'arrive à le reproduire. Après, si c'est un animal que je dessine hyper souvent, style, je sais pas moi, la loutre ou l'écureuil, j'ai plus besoin de faire ce travail là mais sinon ça se produit, ça se passe comme ça. Et je regarde des vidéos aussi, ça m'aide à bien comprendre l'attitude et le déplacement.
Eh ben, merci beaucoup. Bon, je pourrais pas le cacher plus longtemps. Interrompre des gens et leur poser des questions peut créer des accidents et
Et après, on a... Ouh, pardon. Oh là là.
Et faire tomber une pile de livres fraîchement achetés. Cet accident m'a bouleversé et je tiens une fois de plus à m'excuser de ce qui s'est passé. Si vous me voyez venir vers vous avec un micro et que vous avez des choses fragiles en main, fuyez. Et c'est peut-être la fin de ce festival, mais ce qui est sûr, c'est que les gens sont déjà prêts à revenir l'an prochain. Est-ce que vous reviendrez l'an prochain ?
Oui, je pense.
Bah oui, je reviendrai, c'est sûr.
Parce que j'aime bien les livres.
Et c'est sur l'excellent générique de Tintin que s'achève cette matinale. On se retrouve lundi et ce week-end, nous serons en direct du Festival 48e de rue avec nos amis de 48FM le samedi à 12h30 et 14h30. Merci à toutes et tous de nous suivre. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. À lundi, ciao.